France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, quelle place pour les femmes dans le sport en général et dans le foot en particulier? Question posée un petit peu plus d'une heure et demie du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2019. Le match d'ouverture entre les Françaises et les Sud-Coréennes débutera à 21h au Parc des Princes. Cette rencontre sera retransmise en direct sur TF1 et Canal+, ce qui l'air de rien est déjà une petite révolution, car ce n'était pas le cas lors des précédentes compétitions. Or, la couverture médiatique est essentielle pour que les sportives sortent de l'ombre et qu'elles aient droit à la lumière au même titre que les messieurs. Alors ce soir, au moment où débute la compétition, on va essayer de comprendre pourquoi la France est en retard par rapport à d'autres pays, notamment dans le football, pourquoi l'Allemagne compte près de 900 000 licenciés, la France moins de 200 000. On se demandera ce qu'il faudrait faire pour favoriser la pratique sportive des filles. Avec nous pour aborder tous ces sujets, trois pionnières que je vous présente à présent. Annie Fortems, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Co-fondatrice et capitaine du club de Juvisy entre 1971 et 1984. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous raconter. Mélissa Plaza, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Ex-joueuse professionnelle internationale de football. Vous êtes passée, si je ne m'abuse, par Montpellier, l'Olympique Lyonnais et Guingamp, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Et vous êtes l'auteur chez Robert Laffont d'un livre dont le titre est le suivant. Pas pour les filles, point d'interrogation. Avec nous également Béatrice Barbus, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous n'êtes pas footballeuse mais handballeuse et vous êtes la seule femme à avoir dirigé, je ne sais pas si c'est toujours vrai, un club professionnel masculin, l'US Ivry, c'est toujours le cas ?
Ben non, c'était plus le cas, il y a Céline Forté maintenant à Limoges au basket.
En tout cas, vous avez été pionnière et vous êtes, je le précise, sociologue du sport, maître de conférences à Paris-Est, Créteil, c'est bien ça. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Du sexisme dans le sport, chez Anna Moza. C'est un livre à lire absolument. Merci à toutes les trois d'être là. Il y a déjà beaucoup de monde au standard du téléphone sonne.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite un premier appel. André est en ligne. Bonsoir à vous, André.
Oui, bonsoir à toutes.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter.
Oui, ben, je suis un petit peu dans le monde sportif féminin, puisque j'ai été dirigeant. Je suis en contact avec plusieurs clubs, dont un club Servan-sur-Vilaine à côté de Rennes. Et je connais les problèmes auxquels sont confrontées les sportives féminines. Je dirais tout d'abord, prenons l'exemple des États-Unis. Ma petite nièce est américaine, elle joue au football. Et le football féminin aux États-Unis est devant le football masculin. Bon, en France, le meilleur exemple, c'est actuellement. Il y a la Coupe du Monde féminine. L'équipe de France féminine s'est fait virer de Clairefontaine, où il y a le centre technique national, pour laisser la place aux garçons. Première chose. Deuxièmement, les salaires sont 10 fois plus importants, voire plus, pour les féminines. Et troisième chose, même si c'est moins vrai, les équipements sont en priorité pour les garçons et j'ai des tas de photos là-dessus de montrer ce qu'on réserve pour les filles au niveau des équipements, même si ça s'est amélioré, sont les équipements les moins performants, les plus vétustes. Et si vous voulez, on pourrait parler longuement de tous les problèmes que rencontrent les filles au niveau discrimination. Je prendrai un dernier exemple. Bernard Lacombe, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, a parlé des filles en leur disant, au lieu de jouer au football, elles feraient mieux de faire la vaisselle. C'est inadmissible. Thierry Roland,
Il les renvoie à leur casserole, si je ne m'abuse, c'était il y a quelques années. Mais ça revient un peu au même. Oui, il faut les laver, les casseroles.
C'est vous avez raison. Dans la cuisine,
faire la vaisselle après.
Très sincèrement, en France, on dit oui, ça va mieux, le football, etc. Mais quand vous voyez tous les obstacles, même si on a une équipe de handball qui est performante, c'est certainement le sport où les femmes sont plus performantes, c'est vrai que c'est pas évident. Et pourtant, je peux vous dire une chose, j'ai vu l'équipe féminine, quand il y avait Philippe Bergerot de football, venir à Lorient. Les filles, elles sont sympas, elles sont décontractées, etc. Bon, c'est vrai qu'elles ont leur caractère. Mais très sincèrement, on ne fait rien pour les aider, on ne fait rien pour les favoriser, et on peut pas... On entend très souvent, justement, des critiques à leur égard. Et quand ce n'est pas de la véritable discrimination, on a écrit au ministre, avec mon ami de Servan-sur-Vilaine, on a demandé à ce que ça change. On a été écouté un petit peu comme ça. Là. On n'a jamais, jamais. Les questions sont passées par les députés. Il y a eu des questions orales, écrites, pour dire que, justement, c'était pas normal. Parce que c'est pas le cas dans les autres pays. Voilà.
Merci André pour cette entrée en matière et bienvenue au club. Franchement, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Les trois qui sont autour de moi n'ont pas cessé d'acquiescer à tout ce que vous avez pu dire parce que vous avez dit beaucoup de choses. On va peut-être reprendre tout ça dans l'ordre. D'abord,
mais déjà, on peut le remercier.
Oui, Béatrice Barbus.
On peut le remercier d'être conscient de tout ça parce que ils ne sont pas nombreux et nombreuses à avoir conscience des discriminations et des freins auxquels on doit faire face.
Ça veut dire
donc, que merci, monsieur.
Les filles se battent seules en général, Annie Fortems?
Apparemment non, puisqu'on a au moins cet auditeur, comme dit Béatrice, c'est quand même sympathique d'entendre ça, hein, un bilan bien clair. Après, on n'a plus grand chose à dire derrière, mais
je plaisante.
Mais on vient d'une époque, moi j'ai vu quand même l'évolution du football féminin. Moi, je suis une pionnière du football féminin des années 70. Donc nous, on était à une époque où on n'avait même pas le droit d'exister. C'est-à-dire que on a bataillé effectivement pour les maillots, pour les stades, pour les créneaux d'entraînement, pour avoir des entraîneurs. Aucun homme ne voulait entraîner les filles à l'époque. Maintenant, c'est une promotion d'entraîner les filles, en tout cas en D1 et en D2. Mais nous, personne ne voulait nous entraîner. Donc on vient d'une époque où il y avait encore moins, beaucoup moins, tellement moins qu'aujourd'hui. Nous, on a bataillé pour exister. Maintenant, le combat à faire, et Mélissa est une digne représentante de ce combat, Béatrice aussi, c'est de l'égalité des droits. Nous, on n'en était pas là du tout. Nous, on était parallèle au féminisme, où les filles, à l'époque, c'était simplement exister en tant que femmes. Maintenant, il faut conquérir l'égalité des droits. C'est les prochaines générations, ça.
Dans la continuité, il y a eu le temps de l'exclusion, maintenant, il y a le temps des discriminations.
Mélissa Plaza, sur ce que disait André.
Je le remercie aussi parce que André, c'est un très bon bilan. Je crois qu'il a raison sur beaucoup de choses.
On reprend peut-être dans l'ordre,
ouais,
l'histoire de Claire Fontaine.
Claire Fontaine, c'est assez affligeant. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Mélissa va nous expliquer.
Ce qui s'est passé, c'est assez simple, c'est que les joueuses étaient à Claire Fontaine en préparation du mondial, que les hommes ont été invités pour partager un dîner, donc les espoirs et l'équipe A à partager un dîner avec les joueuses. Et puis elles ont été priées de quitter les chambres pour deux nuits, pour laisser les garçons dormir au château pour deux nuits, parce qu'ils partaient ensuite à la Beaujoire affronter la Bolivie en match amical. C'est terrible, parce que derrière, on a essayé un peu d'étouffer l'affaire, c'est-à-dire que Didier Deschamps a dit qu'il n'y avait pas de débat. Effectivement, il n'y a pas de débat quand c'est unilatéral, ça c'est certain. Ensuite, Corinne Diacre n'a pas éteint le feu non plus, puisqu'elle a dit que les garçons ont toujours été prioritaires et que ça resterait comme ça pour l'instant. Donc, voilà. Et puis moi, par ailleurs, en interne, pour avoir échangé avec quelques joueuses, j'ai le sentiment qu'on réussit à leur retourner le cerveau en leur faisant croire que finalement c'est pas si mal ce qu'on leur donne en contrepartie. Donc j'ai eu des joueuses qui m'ont dit « Ah non, mais c'est bon Mel, t'inquiète pas, on s'entraîne toujours à Clairefontaine, mais en plus maintenant on a des chambres individuelles. Oui, c'est super, mais vous avez dû partir du château pour deux nuits, quoi. »
Faisons pas de vagues, hein. C'était un petit peu ça cette semaine, Béatrice Barbus.
Moi ça... Il y a ce que dit Mélissa, c'est que les sportives aujourd'hui sont prises entre transgression et conformisme. C'est-à-dire que parfois, elles sont transgressives parce qu'elles font du football au plus haut niveau, en l'occurrence là les footballeuses. Et en même temps, elles sont obligées de se conformer pour pas être marginalisées, voire même exclues de tout simplement la Fédération Française de Football, ou en tout cas de l'équipe de France féminine de football. Donc c'est très compliqué effectivement pour les filles. Quant à Corinne Diacre, bien évidemment, elle peut pas dire autre chose. Elle est dans son rôle et dans sa fonction. Publiquement, elle peut pas dire. Surtout qu'on est à quelques jours du début de la Coupe du Monde de football. Ça m'inspire quoi aussi? Ça m'inspire le fait que là, on a la preuve que le Claire Fontaine a été pensée et conçue pour les hommes et seulement pour les hommes.
À une époque, d'ailleurs, les femmes étaient interdites de Claire Fontaine.
En plus, ça fait pas très longtemps qu'elles sont autorisées, effectivement, à s'y entraîner et à y
et
dormir.
Et être au château.
Être au château, voilà, le château, avec les noms. Mais c'est tout à fait symptomatique aussi, d'une certaine manière, de gérer, j'allais dire, les sportifs. Vous mettez des chambres personnalisées avec le nom des joueurs. Vous voyez, à la Fédération Française de Handball, ça peut pas arriver, ça. Parce qu'on a des chambres, il n'y a pas de nom dessus. Je veux dire, et il y a autant de chambres qu'il faut si on peut recevoir deux ou trois équipes nationales sans aucun souci. Et on a deux terrains pour que, si un jour ça arrive, les deux puissent être en même temps. Mais c'était une autre époque, certes. On ne l'a conçu que maintenant, nous. Mais voilà, c'est intéressant. Non, mais là, le message, clairement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les filles. Qu'est-ce qu'on dit? Vous passez après. Voilà, c'est ça que l'on dit. Et vous passez après.
On
pour les petits garçons non plus, c'est pas bien. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent, eux? vous passez avant vous.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi Roland Garros. Hein. J'ouvre juste la parenthèse parce que il y a quand même les demi-finales où les dames sont parties sur l'autre cours et les messieurs ont eu le cours central. Amélie Mauresmo a dit scandale.
Absolument.
Elle a raison.
C'est légitime. Oui. C'est tout à fait légitime.
Oui, Annie Fortems.
Mais en même temps, je pense que c'était pas tout à fait le moment pour gérer ça, en fait. Ils ont fait une erreur, je trouve que c'est une erreur monstrueuse, quoi, la FFF. Dans le cadre de MeToo, de tout ce qui se passe en ce moment, c'est aberrant de faire ça. Ils donnent le bâton pour se faire battre. Mais Corinne Diacre, de mon point de vue, avait raison. C'est absolument pas le moment de traiter ça. Il faut pas déstabiliser les joueuses. Elles ont bien raison, les filles, de ne pas rentrer dans cette problématique. Même si je suis d'accord avec toi, avec vous, Mélissa, qu'elles sont un peu dans la culture du c'est déjà pas mal, mais c'était pas le moment. Par contre, n'oublions pas après la Coupe du Monde de régler ce problème.
Alors, oui, je voulais pas la blâmer, bien entendu, mais je comprends. Je sais un peu qu'on est pieds et poings liés aussi dans ce milieu-là.
Alors, autre chose que disait André tout à l'heure, il parlait des salaires. Moi, j'ai eu l'impression qu'on assistait à la même chose cette semaine. Il y a eu des questions qui ont été posées aux joueuses de l'équipe de France à propos de leur salaire. Quand on compare avec les garçons, évidemment, c'est sans comparaison. Et là, c'est pareil. On fait pas de vagues, c'est pas le moment.
Pareil. C'est toujours, on se contente déjà de ce que l'on a et c'est déjà pas mal quand on compare à avant. Et puis on peut pas comparer avec les garçons parce que la logique économique n'est pas la même, etc., etc. On est toujours dans ce cercle infernal pris au piège entre transgression et conformisme. Alors, j'ose espérer, grâce à des joueuses comme Mélissa et son livre, grâce à des femmes comme Annie, grâce à tout ce que l'on fait les unes et les autres, j'ose espérer que, enfin, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, des sportives en activité, s'associeront, s'allieront, se lèveront pour dire stop, ça suffit, on a le droit, à partir du moment où on fait le même métier, où on s'entraîne autant, on a le droit à avoir des traitements salariaux équivalents. L'histoire des primes, parce que je vais vous dire, je vais aller plus loin. La fédé de foot, là, si les filles, elles gagnent, elles sont championnes du monde, elles vont toucher 40 000 euros, ok? C'est une fédé quand même qui est relativement riche, qui a de l'argent. Nous, au handball, on a donné 60 000 euros à nos filles. Et notre euro 2018, il est déficitaire. Et alors? Et alors? Par solidarité, mais surtout par respect pour ce que ces femmes ont fait, on se doit de leur donner les mêmes primes.
Mélissa Plaza.
Je suis entièrement d'accord. Et puis en plus, par ailleurs, on interroge les femmes de l'équipe de France actuellement. Et ce sont celles qui sont les plus choyées dans les clubs. Parce que ce sont celles qui sont professionnelles et qui vivent exclusivement du football. Mais cette réalité, elle en masque une autre qui est moins jolie à voir. C'est celle de toutes les autres joueuses de D1, c'est une majorité, qui ne vivent pas du football, qui sont obligées d'avoir un travail d'appoint comme ce qu'avaient les femmes dans les années 50 en réalité. Donc elles travaillent au fast-food, elles sont surveillantes dans des lycées pendant des années et des années, elles abandonnent les études et elles peinent avec les deux boulots à avoir un SMIC mensuellement. Donc elles vivent dans une précarité absolue et ça, jamais personne ne vous le dira. En tout cas, ni elles, parce que c'est évidemment personne.
Mais tu parles même de filles. Attends, Mélissa, tu t'en parles de filles dans ton livre. Tu dis qu'il y en a qui gagnent même 400, des défraiements.
Mais alors,
des défraiements.
J'ai une copine qui est venue chez moi ce week-end, qui est capitaine d'une équipe de D1, qui gagne 250 balles par mois et qui s'entraîne à une heure de son lieu de résidence, donc ça ne rembourse même pas ses frais de déplacement. On est en D1 et c'est la capitaine. C'est terrible en fait.
Juste une petite question et puis ensuite on va aller faire un petit tour au Parc des Princes parce que Guillaume Batin est sur place et puis il va nous dire un petit peu comment ça se passe. MeToo a eu une influence ou aura rien du tout dans le monde du football, Mélissa Plaza?
Bah, vous avez entendu parler de quelque chose, vous?
Non, mais je vous pose la question. En interne, est-ce qu'il y a eu
non.
Le début du commencement d'un
non, et c'est pas que ça n'existe pas. C'est que, comme pour tout le reste, on essaie de mettre un mouchoir là-dessus et surtout, il faut pas que ça sorte.
Annie Fortems.
Non, je pense pas que MeToo ait eu une influence sur le monde du football, en tout cas des actrices et des acteurs actuels du monde du football. Sur nous, c'est sûr, qui sommes un petit peu sortis. Mais on voit avec ce qui s'est passé à Clairefontaine. Enfin, Claire Fontaine, c'est pour moi une espèce de passage à l'acte incroyable. Quoi.
Alors, comme promis, on va au Parc des Princes. Guillaume Batin, êtes-vous là?
Oui, bonsoir Claire.
Vous êtes dans le stade à l'heure qu'il est?
Absolument, dans le stade. C'est très compliqué de pénétrer dans l'enceinte sportive à la fois pour les journalistes. On est 300, c'est un chiffre important pour un match de football. Et puis les spectateurs sont en train de rentrer tout doucement dans l'enceinte qui habituellement reçoit les supporters du Paris Saint-Germain. Les contrôles sont drastiques pour rentrer dans le stade. Contrôle, palpation évidemment. On passe tout comme à l'aéroport, les bagages dans les détecteurs. Et puis voilà, depuis un instant, le speaker est en train de s'exprimer avec Camille Abili. Les joueurs joueuses sont chacune à leur tour, hein, des deux équipes sont rentrées sur la pelouse pour fouler la pelouse, pour prendre l'ambiance, pour sentir l'odeur de l'herbe, d'abord les Françaises et ensuite les joueuses sud-coréennes.
Et dites-moi, Guillaume, vous qui avez l'habitude de couvrir les matchs de foot, est-ce que là vous percevez quelque chose de différent ou pas? Parce que c'est quand même un événement ce soir.
Là, dans tout l'environnement que je viens de vous décrire et dans les coulisses aussi du Parc des Princes, oui, on a vraiment l'impression d'être dans l'organisation d'un énorme événement, d'une Coupe du Monde FIFA avec les mêmes obligations, le même protocole obligatoire imposé par la FIFA à toute la logistique, les supporters d'un côté, la buvette qui est payante alors que c'est gratuit, notamment dans un match de première division, c'est payant pareil pour une Coupe du Monde masculine. L'ambiance est la même. Alors avant que ça commence, hein, le match débutera dans 1h30, il sera plein. Je rappelle que 48 000 c'est la capacité du Parc des Princes et on va battre un record aujourd'hui puisque le dernier, à plat de couture, le dernier record d'affluence pour un match de football féminin en France, c'est de 24 835 spectateurs. C'est pas si vieux, en 2007 pour un match de l'équipe de France déjà, France-Grèce à Rennes au Roazhon Park. Donc on va exploser les scores, ça va dans la tendance du développement féminin. Et pour avoir été il y a 24 heures au congrès de la FIFA à Porte de Versailles à Paris, j'ai entendu le nouveau qui succède à lui-même, Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA, s'engager à investir 500 millions d'euros pour le développement du football féminin et organiser une nouvelle compétition qui va dans ce sens justement de l'exposition médiatique des footballeuses professionnelles avec une Coupe du Monde des clubs comme une Ligue des Champions, sauf que ce sera à l'échelle mondiale.
Merci beaucoup Guillaume Batin pour cette intervention et puis à plus tard évidemment sur les ondes de France Inter. Mélissa Plaza, ça avait l'air de vous réjouir de l'entendre Guillaume Batin dans ce qu'il nous disait.
Oui, je me réjouis, j'aurais envie d'y être pour voir ce que ça donne parce que c'est formidable et je suis tellement heureuse pour elles le méritent tant, elles ont travaillé tellement dur que c'est tout à fait normal qu'elles puissent avoir des retombées comme ça.
Petite question sur le choix du Parc des Princes plutôt que du Stade de France, c'est un vrai débat ou c'est un faux débat ça, Béatrice Barbus?
Non, là pour le coup c'est un faux débat. Il oui. y a un cahier des charges que la Fédération Française de Football est obligée de respecter, qui est imposé par la FIFA. Et dans ce cahier des charges, il y avait une jauge inférieure et supérieure pour les stades. Et donc le Stade de France était trop grand. Et c'est logique comme choix, ce choix-là. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est pas très agréable de voir un match de football dans un stade qui n'est pas complètement plein. Et donc, je crois qu'ils ont fait un choix raisonnable et raisonné qui correspond à ce que la FIFA souhaitait.
Voilà, l'essentiel, c'est qu'il y ait une fusion entre le public et les joueuses.
Absolument.
Ce soir. On repart au Standard de France Inter. Mireille est en ligne. Bonsoir, Mireille.
Bonsoir, merci de me prendre. Voilà, je me faisais une remarque. Quand vous ou d'autres médias vous annoncez un événement sportif, vous précisez quand c'est des femmes, vous dites la Coupe du Monde féminine, le rugby féminin, le tennis féminin, mais quand c'est masculin, vous ne précisez pas masculin. C'est-à-dire que pour vous, ben, c'est évident que c'est des hommes, et on ne précise que quand c'est des femmes.
Merci.
Moi, je me dis que ça sera l'égalité quand vous direz Coupe du Monde masculine et quand vous direz rien du tout, ça voudra dire les femmes.
Eh ben, vous avez entièrement raison, Mireille. Et si vous m'avez bien écouté, vous aurez remarqué que je n'ai pas dit féminine quand j'ai présenté The Telephone Son tout à l'heure. La question du vocabulaire, elle est essentielle, Béatrice Barbus.
Primordial. Et là, je sais que avec Mélissa, on partage le même point de vue. On va prendre entraîneuse, par exemple. Et sélectionneuse et défenseuse, si vous dites entraîneur, le E ne s'entend pas quand vous parlez, et comme on le dit souvent, on ne peut pas avoir envie de devenir ce que l'on ne voit pas, d'où la question importante de la médiatisation, mais on ne peut pas plus devenir ce que l'on n'entend jamais. Et moi, j'en sais quelque chose, parce que même quand je disais présidente, il y a des gens qui n'arrivent même pas qu'entendaient femme de président. Alors imaginez, si on continue à dire entraîneur, défenseur ou sélectionneur, je peux vous dire qu'il y a plein de petites filles qui ne comprendront pas qu'elles peuvent l'être.
Mélissa Plaza, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions de
genre. Oui, effectivement, en fait, quand on dit football féminin, ce qu'on ne dit jamais, on ne dit jamais football masculin. Effectivement, donc on considère que le football, par essence, est masculin, que le football féminin serait qu'une sous-discipline, qui n'évoluerait que jamais que dans l'ombre des garçons, et c'est un peu dommage. Et puis derrière foot féminin, il y a aussi cette idée d'injonction à la féminité qui nous est faite finalement parce que ces injonctions à la féminité qu'on observe, hein, quand vous regardez la photo de l'équipe de France officielle, il y a certaines d'entre elles qui ont les cheveux longs, bien lissés. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'elles jouent un match, hein, évidemment. Mais cette injonction à la féminité, malheureusement, aujourd'hui, elle est nécessaire. C'est notre droit d'entrée dans ce milieu. Et puis, c'est surtout notre code-part à la médiatisation. C'est-à-dire qu'on vous réserve le droit d'être médiatisé à condition que vous correspondiez à minima au canon de beauté féminin prôné actuellement dans notre société, prôné par, bien entendu, tout le monde sauf les femmes. Donc c'est encore... oui, on ne devrait plus jamais dire football féminin.
Voilà, mais on va essayer de ne plus jamais dire football féminin.
Et je vous
féminin.
Félicite, parce que vous le faites très bien.
Non, non, mais moi, je suis une militante des mots.
Oui, bien
donc
sûr.
Donc, ça fait partie, bah, le choix des mots, il est très important. D'ailleurs, on a des mails, hein, ce soir, qui nous arrivent. On nous demande, par exemple, d'être plus équilibré dans le traitement de Roland-Garros, etc. Encore que le tennis, eh ben, comme ouais. Les hommes et les femmes, on parle quand même des deux, mais c'est important. Annie Fortems, cette question-là.
Bah, moi, je pense que dans quelques temps, enfin, j'espère en tout cas, je forme le vœu, bah, qu'on emploie l'expression football masculin et football féminin. C'est-à-dire qu'on sera obligé de préciser quand on parle de football, si c'est joué par les garçons ou par les filles, tellement le football féminin, enfin, excusez-moi, le football au féminin aura pris complètement sa place. Ce qu'on dit d'ailleurs pour le handball, hein, on dit le handball masculin, le handball féminin, me semble-t-il, Béatrice.
Aujourd'hui, oui. Il fut un temps où tu sais comment on qualifiait les femmes qui faisaient du handball en interne.
Non.
On faisait du handball, nous, on faisait pas du vrai handball. Ouais. Alors, tu sais, aussi, on a dû obligé de se battre pour dire maintenant, nous aussi, on fait du hand.
En tout cas, tout ça, c'est important, surtout pour les plus jeunes qui arrivent. Et justement, Diane, qui est au standard, souhaite nous en parler. Bonsoir, Diane.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voulais témoigner, justement, parce que j'ai une petite fille qui s'appelle Sacha, qui va avoir 9 ans, qui est à l'école primaire. Et donc, elle, ça fait 2 ans qu'elle a envie de jouer au foot. Elle a toujours été attirée par le ballon. Elle sait super bien tirer, elle impressionne voilà, souvent les autres enfants, elle a de la force et tout, sauf que dans son école, c'est réservé aux garçons. Donc ça, c'est dans le cadre scolaire, hein, c'est pas en activité extrascolaire. Et elle ne peut pas toucher un ballon, et c'est comme ça depuis le CP. J'alerte la direction, j'alerte les autres parents d'élèves, mais c'est comme ça, les petites filles ne jouent pas au foot dans la cour. En tout cas, chez nous, à Paris, dans notre quartier, elle n'a pas le droit de toucher le ballon et elle l'a intégré et donc elle est dans son coin et puis elle fait d'autres choses.
Eh ben dites-moi, Diane, il y a Mélissa Plaza qui a une question à vous poser.
Quand vous dites réservé, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Bah en fait, ça veut dire que c'est intégré que les garçons jouent au foot et les filles ne jouent pas au foot. Alors
oui,
évidemment,
oui,
pas leur dire, il y a pas un règlement qui dit que les filles, mais c'est comme ça et c'est vrai les enfants proposent pas spontanément aux petites filles de jouer. Les petites filles, moi quand je lui dis mais vas-y, impose-toi, dis, prends le ballon et tout, elle me dit mais c'est impossible maman, je peux pas faire ça. C'est pour les garçons et les équipes éducatives. Et ben je les interpelle de temps en temps, les parents d'élèves. Mais je pense qu'ils disent qu'ils ont d'autres problèmes, d'autres sujets et qu'ils voient même pas le. Mais c'est en tout cas c'est intégré. J'ai vu ma fille avoir un désir de foot et puis c'est retombé parce que elle s'est pas sentie autorisée en tout cas dans le cadre scolaire. Et je me dis qu'il faudrait, je sais pas, mener des campagnes de sensibilisation. Enfin, il y a vraiment des petites filles qui ont envie de jouer au foot, quoi.
Et oui, Diane, hein, mais c'était l'objectif des ABCD de l'égalité. Et qui sait si ça a été contesté, Béatrice Barbus, on peut en parler.
Oh, qui a à dire? Ben oui, ils ont été contestés, donc on les a annulés, ça y est, et puis on les a mis dans un tiroir. Et donc voilà, ben dans l'éducation nationale, et ben ça continue comme avant. C'est-à-dire que la plupart des instituteurs, des institutrices, professeurs des écoles, pardon, mais également au collège et au lycée, n'ont pas été formés à toutes ces questions-là, et donc ils participent de la reproduction des stéréotypes de genre et on se retrouve toujours dans la même situation. Ce que vient de raconter la dame est inadmissible, on peut plus accepter ce genre de choses. Je ne comprends pas comment le directeur de cette école n'intervienne pas. C'est impossible d'accepter ça. Comment on peut accepter en 2019 qu'une petite fille n'ait pas l'autorisation, le droit de jouer au football dans la cour d'école? C'est pour ça d'ailleurs que dans certaines communes, on a décidé d'enlever les traits de football et les terrains de football des cours d'école.
Mais en fait, c'est pas partout comme ça. Il y a aussi beaucoup d'instituteurs et d'institutrices.
Dans ce cas précis, c'est la responsabilité de l'équipe enseignante quand
absolument.
Même.
Oui, là, ils ont été prévenus.
Oui, tout à fait. Mais pour intervenir dans les écoles, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont volontaires pour changer les choses. Mais c'est vrai que quand j'interviens dans les écoles, je m'aperçois aussi très simplement. Hein, je dessine la cour de l'école au tableau. En général, le terrain de foot et le terrain de basket occupent l'espace central, 80% de l'espace de la cour. Et quand je demande aux enfants de se placer, donc de placer un petit bonhomme qui leur correspond dans la cour de récré, on s'aperçoit que les filles sont cantonnées aux extrémités, que les garçons occupent l'espace central. Et quand je demande aux filles, mais les filles, si vous voulez aller de l'autre côté de la cour, qu'est-ce que vous faites? Vous traversez, vous allez au plus court. Elles vous répondent, ah non madame, on n'a pas le droit. Comment ça on n'a pas le droit? Bah on n'a pas le droit. Donc en fait, elles ont intégré dès l'âge de 7 ans que la cour de récré est un espace de droit ou de non-droit en fonction de s'ils sont une fille ou un garçon. Donc c'est vraiment terrible. Et le football en fait partie parce que j'entends encore beaucoup de petites filles me dire, malheureusement, mais moi, les garçons ne veulent pas que je joue au foot, alors que j'adore ça.
Alors là, on a parlé avec ce témoignage du cas bien précis de l'école, de la cour de récréation de l'éducation nationale. Qu'en est-il des clubs aujourd'hui en France? Je ne sais pas qui souhaite...
Comment ça, des clubs?
Des clubs de foot, si une petite fille a envie d'aller apprendre à jouer au football,
est-ce qu'il y a... Il y a quand même
les choses évoluent.
Oui, énormément. Il y a quand même 6000 clubs en France. Alors j'imagine qu'il y a encore des territoires. Je le sais puisqu'on me l'a rapporté récemment.
Les 6000 clubs font pas forcément des filles, Fanny.
Non,
je te le dis. Non, les clubs de foot, les clubs de foot ne font pas tous, ne sont pas tous des clubs, les clubs.
Ah non, mais bien sûr. Mais il y a infiniment plus de clubs de foot au féminin qu'il y a même 10 ou 15 ans. Mais on me rapporte moi régulièrement des histoires de petites filles qui veulent jouer au foot dans des endroits reculés, dans des villages reculés. Heureusement qu'il y a le foot mixte jusqu'à 15 ans, je crois maintenant, le foot mixte. Donc elle s'agrège à l'équipe de garçons, mais c'est compliqué à certains endroits, notamment pour celles qui dépassent les 15 ans, je crois, qui après se retrouvent sans foot, ne pouvant plus jouer au foot parce qu'elles n'ont plus le droit de jouer avec les garçons. Donc ça, c'est un vrai problème qu'on me rapporte régulièrement, ce cas-là.
Et surtout là, ce que j'entends moi. Là maintenant, c'est qu'il y a des gens qui disent on n'a plus assez de créneaux horaires, on peut plus accepter, on peut pas accepter des filles. C'est ce qui m'est arrivé moi dans ma vie, c'est ce que j'explique dans mon livre. Quand vous avez 1000 adhérents, comment on peut dire qu'on ne peut pas accepter de filles? Vous acceptez 50 garçons en moins et puis vous prenez 50 filles. Et le problème des créneaux ne se pose pas, le problème des stades ne se pose pas. Vous les aviez pour les 1000, il n'y a aucune raison que vous ne les ayez pas pour les 1000 encore, même s'il y a 50 filles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours la même chose, les filles passent après.
Oui, et puis au-delà de ça, c'est que effectivement, on a évolué, il y a de plus en plus de clubs qui ont des sections qui sont ouvertes aux filles. Ça, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elles soient bien accueillies et fidélisées. Et quand je parle de fidélisation, il y a aussi tous les moyens qu'on met à disposition pour ces petites filles. Est-ce qu'elles ont des vestiaires ou est-ce qu'elles doivent se changer dans le vestiaire arbitre? Est-ce que les équipements sont à leur taille? Je peux vous dire, moi j'ai une copine qui a signé au FC Nantes cette année, elle a reçu des chaussettes en 45-48, elle fait du 38. Et ça, c'est simplement, le message, c'est désolé, il restait que ça chez les garçons, donc on vous laisse ce qui était déjà trop grand pour les garçons.
Puis il y a la question des éducateurs aussi, éducatrices.
Et des éducateurs et des éducatrices. Trop souvent sur les réseaux sociaux, je vois des parents désœuvrés qui me disent, mais vous imaginez, ma petite fille a joué avec les garçons et son coach a dit elle rentrera quand il y aura 3-0. Donc il y a encore beaucoup de choses à changer et il faut éduquer absolument tout le monde en fait.
C'est ça.
Pourquoi dans les diplômes d'État, dans chaque module de chaque fédération, il n'y a pas un module égalité? Pourquoi ça n'existe pas?
Ça y est, nous on l'a fait, on va le mettre en œuvre et on va le mettre pas seulement pour les... Non, c'est pas le cas partout.
Il faut l'introduire. Il faut l'imposer, mais pas que dans le sport.
Voilà, il faut l'imposer, mais toutes les formations, pas seulement celles d'entraîneur, celles de dirigeante, celles d'arbitre. Nous, c'est ce qu'on va faire dans les mois et les années qui viennent.
Si tu peux dupliquer ça un peu partout.
C'est de lutte contre les discriminations en général et pas seulement contre le sexisme.
Mélissa Plaza, quand vous étiez petite, vous avez entendu ça? C'est pas pour les filles?
Oui, mais sans arrêt. Les garçons dans la cour de l'école, au début, m'ont totalement exclu. Ensuite, ils m'ont collé dans les buts parce qu'ils n'avaient pas de gardien. Et puis finalement, à force d'insistance et puis de démonstration aussi, ils ont fini par comprendre qu'il valait mieux m'avoir dans leur équipe. Mais ça a pris beaucoup de temps. Et il faut toujours prouver deux fois plus. Et puis, même encore plus tard, dans les clubs, je le raconte dans ce livre, mais c'est vrai que c'est un parcours de combattante, quoi, pour juste avoir le droit d'exister, d'emprunter les terrains. Moi, j'ai connu des terrains où l'éclairage s'éteignait à partir de telle heure, donc on finissait l'entraînement de travail de volée devant le but dans le noir. Enfin, c'est vraiment, il y a des choses, c'est cocasse, quoi.
À 22h30.
Donc c'est cocasse et en même temps, on finit par en rire jaune quand même.
On repart au standard de France Inter. Philippe est à Rennes et il est au bout du fil. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. Vous parliez tout à l'heure d'injonction à la féminité. Alors, dans la série Injonction à une certaine idée de la féminité qu'on pourrait critiquer, j'ai cru comprendre qu'on l'encadrement recommandait aux joueuses d'avoir les cheveux longs. Alors, est-ce que ce bruit qui court est faux, rassurez-moi, ou bien est-ce que c'est vrai? Et je trouverais ça vraiment étonnant comme recommandation, comme demande de la part de l'encadrement.
Eh ben merci Philippe pour cette question, Mélissa Plaza.
Ouais, bah c'est une très bonne question. Alors en fait, moi en tant que joueuse, j'avais pas vécu ça. Par contre, ça fait deux fois que ça me remonte aux oreilles de sources assez proches, et je trouve ça tellement affligeant. Parce que là encore, en fait, finalement, ce qu'on leur demande, c'est d'abord d'être féminine avant d'être talentueuse. Donc, il va falloir travailler sur cette question et puis travailler aussi sur ces joueuses qui n'ont pas toujours conscience de ça. J'entendais Amandine Henry, il n'y a pas très longtemps, au micro de Léa Salamé, qui disait « Je suis femme. » «
Je suis maquillée. » »«
Ouais, je suis maquillée, j'aime être coquette. » Et en fait, je lui ai dit à Amandine, t'as pas besoin de ça. Amandine, t'es tellement talentueuse. On s'en fiche que tu sois féminine. Il faut que tu sois toi. Et en fait, ça me gêne pas que ce soit des choix librement consentis. Si elles ont envie de se maquiller, si elles ont envie d'avoir les cheveux longs, lisses, etc., ça me gêne pas. Mais quand c'est un choix librement consenti, et là, j'ai clairement pas l'impression que ce soit toujours le cas.
Pour que ce soit pour le marketing. Vous racontez, Mélissa Plaza, dans votre livre, une séance photo. Hein, je crois que c'est quand vous étiez à Montpellier. Voilà, il fallait faire connaître le club. Alors, on vous a fait faire, à vous les filles, des photos pleines d'ambiguïté, avec des légendes encore plus ambiguës. Samedi soir, prendre du plaisir. Samedi soir, marquer à la culotte, etc. C'est assez incroyable. C'était Montpellier, c'est ça hein?
C'était à Montpellier, ouais, tout à fait. Et effectivement, le constat le plus triste dans cette histoire, c'est que ça servait à favoriser les abonnements à la Mosson, stade dans lequel nous ne jouions pas. Donc c'était clairement pour aller voir les garçons. Et puis on s'apercevait bien aussi de la symétrie des genres, puisque les garçons, eux, n'avaient pas du tout des photos dommageables. Voilà, c'était des slogans, samedi soir, relâcher la pression, samedi soir, caresser le cuir. Donc vraiment, ça a été une séance assez humiliante. Mais c'est ce qui m'a aussi permis de mieux comprendre les mécanismes du sexisme après coup. C'était une erreur de jeunesse.
Béatrice Barbus,
on comprend bien en lisant le livre, Mélissa.
Ouais, merci ouais, Béatrice.
T'inquiète.
Et on comprend aussi, vous l'avez dit dans votre livre aussi, Béatrice Barbus, le problème du sport, c'est que c'est le corps, hein,
ouais.
et que tout part de là.
Absolument. Tout part de là, le corps, c'est d'ailleurs les féministes, les premières féministes, ça partait de là aussi, le droit à l'avortement, le droit de pouvoir effectivement utiliser son corps comme on l'entend, et dans le sport, c'est le corps qui est au centre de l'activité, et donc il y a des injonctions effectivement à la féminité qui sont tout le temps, et depuis tout le temps, même moi à mon époque, c'était faut vous habiller en fille, je me souviens effectivement aussi qu'il y avait, je ne citerai pas le nom, mais pareil dans un entraîneur de l'équipe de France féminine, c'était un entraîneur de club qui exigeait que ses filles soient féminines après les matchs, et donc il les obligeait à les mettre des jupes. Voilà, donc ça c'est du traditionnel. Si vous me permettez 30 secondes, je voudrais juste lire un autre extrait du livre de Mélissa.
Allez-y, puis il faut vraiment qu'on prenne Sébastien qui nous attend.
Voilà ce que Mélissa et d'autres joueuses peuvent entendre dans un vestiaire de football. Donc c'est l'entraîneur qui parle. Vous voulez faire les salopes avec moi ? Il pointe alors son index sur chacune d'entre nous et ajoute qu'il va toutes nous baiser une par une. L'homme conclut par « s'il n'y a pas un 8-0 à la fin du match, vous rentrez à pied ». Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 50 ans.
Charmant. On repart comme promis au standard, Sébastien, et nous attend. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir mesdames. Le témoignage de la dame dont la petite fille peut pas jouer au foot à l'école, là, ça m'a fait bondir. Et du coup, il y a une proposition, mais moi qui me paraît une évidence, c'est que personne n'évoque jamais. Alors soit je suis plus génial que les autres, soit vraiment il y a une volonté délibérée de que ça se passe pas. Pourquoi dans les sports collectifs on crée pas des entraînements et des tournois mixtes? Pourquoi c'est pas possible ça?
Alors
ça se fait.
Annie Fortem,
vas-y.
Ça se fait. Si, ça se fait. Des tournois mixtes chez les jeunes de moins de 15 ans, c'est possible. Ça se fait aussi en salle avec le futsal. J'assiste régulièrement à des matchs de futsal. C'est hyper intéressant. C'est beaucoup moins un sport de contact. C'est beaucoup plus technique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus de fractionné. Mais moi, je pense qu'un jour, on y viendra. Je pense que dans quelques années, peut-être dans une décennie ou deux, je pense que ça sera l'avenir En tout cas, peut-être une autre discipline. Mais il y aura du football mixte, et moi je militerai pour le football mixte. Avec une modification des règles, bien sûr.
Mélissa Plaza.
Oui, en fait ça existe déjà. Je sais qu'au sein de la Ligue de Bretagne, il y a des personnes très bien comme Fabrice Morel qui travaillent sur un football plus inclusif, où les règles sont très peu modifiées, mais permettent à toutes et tous de jouer, y compris aux petits garçons qui n'ont jamais joué au foot, et qui sont eux aussi exclus pour d'autres raisons, parce que ils savent pas jouer au foot. Donc c'est déjà d'actualité. Il faut simplement peut-être sortir un peu de cette logique de surperformance et de compétition.
Et ouais. J'ajoute qu'on a plein de messages sur ce thème de gens qui nous disent qu'effectivement, il faut des équipes mixtes. Il y en a qui nous parlent du biathlon. Une réaction aussi.
Oui, alors, au handball aussi, mais ça existe dans tous les sports.
Une réaction.
Des équipes mixtes au basket aussi. Il y a des championnats loisirs.
Oui. Une réaction d'une auditrice de 3 ans, pardonnez-moi, ça existe. C'est Sonia sur l'application France Inter qui nous dit « J'écoute votre émission avec ma fille de 3 ans, elle a réagi à ce que disait la maman tout à l'heure. La petite a dit « Mais non maman, la dame, elle dit n'importe quoi, les filles aussi, elles ont le droit de jouer au foot, moi je joue au foot avec mes copains à l'école, quand j'ai envie, et les garçons ils ne disent rien. » Voilà. 3 ans, elle a réagi
bien.
À ce qui
s'est passé. Oui, mais c'est bien, ça veut dire que ça aussi, ça existe. Ouais. Il y a des endroits où on peut...
Et on remercie sa maman d'écouter avec sa petite fille.
Oui, voilà. Et de nous faire passer ce message, parce qu'il y a des endroits où, effectivement, il y a des réactions très réactionnaires dans les cours de récréation, mais aussi plein d'endroits sur le territoire. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai des amis que j'ai pas vus de longue date, qui m'envoient des textos, elles sont mères, elles sont grand-mères, et qui me disent « Annie, tu devineras jamais, ma petite fille veut jouer au foot, ma fille veut jouer au foot », ça existe aussi.
Alors, on va prendre à présent Colline, elle va conclure cette émission. Colline, bonsoir, mais soyez pas trop longue parce qu'on a franchement plus beaucoup de temps. On vous écoute.
Pas de souci, bonsoir. Oui, moi c'était juste un premier témoignage en fait, juste pour dire que j'ai été assistante d'éducation pendant 5 ans en collège dans le Vaucluse et on avait pas mal de filles, enfin on s'est rendu compte que des filles avaient envie de jouer au foot mais qu'elles ne venaient pas nous voir parce qu'elles, de fait, elles n'étaient jamais acceptées par les garçons. Et du coup, entre midi et deux, on a organisé des tournois de foot et il y a eu une condition à un moment donné qui a été mise en place par nous, les assistants d'éducation, sans la direction, quoi, qui était que si les garçons voulaient jouer, il fallait qu'ils acceptent au moins une fille dans leur équipe. Parce que de fait, il y a beaucoup moins de filles que de garçons qui veulent jouer. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout d'un an, on a eu une équipe uniquement féminine. Bon, au final, ils étaient très contents de jouer entre garçons et entre filles. Il n'y avait pas de souci, mais on a organisé à la fin de l'année des tournois garçon-fille, fille-fille, fille-garçon, etc. Et c'était super, ça a été super bien accepté et apprécié par les enfants. Et moi, je lance un appel à tous les assistants d'éducation qui écoutent, mais faites ça dans vos écoles, dans vos collèges, c'est super, ça donne envie.
Merci Colline, super. Cet appel que vous venez de lancer, il est 58. On fait un dernier tour de table, vous avez chacune 20 secondes pour nous dire quelles sont pour vous, peut-être quelle est pour vous la priorité des priorités, Béatrice Barthes.
Là, aujourd'hui, maintenant ?
Oui, maintenant, présentement, là.
Que les filles ce soir remportent leur match, leur premier match d'ouverture et qu'elles aillent jusqu'au bout et qu'elles soient championnes du monde. Et moi, personnellement, j'aimerais bien le 7 juillet faire la fête.
Annie Fortem, c'est important.
Ah ben moi, que les filles s'autorisent tout, qu'il n'y ait plus de barrières, plus de frontières, qu'elles passent les barrières, les mains courantes, qu'elles rentrent sur les terrains et surtout qu'elles gagnent ce soir.
C'est très important, cette performance à venir, Mélissa Plaza, cette exposition médiatique.
Oui, c'est important et je le rappelle et je leur envoie bien sûr tout mon soutien, mais qu'elles ne se mettent pas trop de pression non plus, il n'y a pas d'obligation de résultat, cette médiatisation, on ne peut plus mériter, et c'est pas parce que éventuellement elles ne réussissent pas qu'il n'y aura pas encore de la médiatisation derrière. Elles sont extrêmement talentueuses et moi aussi je suis sûre elles vont aller jusqu'au bout.
Allez les bleus, allez les filles.
On est avec vous à fond.
Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci à vous,
Béatrice Barbus, Mélissa Plaza, Annie Fortems. Merci à vous tous qui nous avez appelés, à ceux qui nous ont écrit. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la technique ce soir, Loïc Frapsos, Tristan Gratalon, Fabrice Desmas, merci aux standardistes et à Pierre Collat qui a lu vos mails.